Bonsoir Mohamed Amer Mézian et merci d'avoir accepté de revenir discuter avec nous aujourd'hui. Tu es philosophe et il y a un an et demi, on avait parlé de sécularisation, d'islam et d'écologie autour de Des empires sous la terre, un ouvrage précis et important qui témoigne d'un travail colossal à la fois en termes d'analyse et de théorisation, on peut dire. Et cette fois, on t'invite non seulement parce qu'on te sait être un interlocuteur de grande qualité, mais aussi parce que les éditions Vue de l'Esprit vont publier tout prochainement ce livre.
Qui est là.
Que tu as rédigé du coup en parallèle des empires sous la terre. Donc dans Au bord des mondes, tu te saisis cette fois de l'anthropologie. Et plus précisément de certains angles morts, on peut dire, de cette discipline. Les deux premières phrases de la quatrième de couverture peuvent en donner l'orientation et le ton. Il ne suffit pas, donc je cite, il ne suffit pas d'attribuer une âme aux plantes et aux animaux pour soigner les ravages de l'extractivisme. Encore faut-il élargir le spectre des non-humains au-delà du visible. Dans Au bord des mondes, on peut dire que tu développes une sorte de manifeste en deux temps qui vient éclairer les apories des approches anthropologiques, y compris en anthropologie critique, pour déplier ensuite les possibilités à la fois heuristiques, politiques et sensibles, on peut dire, d'une anthropologie métaphysique. Le livre y dresse à la fois une critique féconde depuis la philosophie, des approches, mais aussi des méthodes et des impensées de l'anthropologie. L'idée, c'est un peu, face à la catastrophe écologique et à la nécessité certaine d'habiter autrement le monde, les idées et les démarches des chercheurs qui ont suivi le tournant ontologique en anthropologie, elles sont complètement insuffisantes. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais préciser pour ceux qui nous écoutent un peu les coordonnées générales, les points de départ de ce travail dans Au bord des mondes ?
Il est possible de partir du titre du livre, donc, qui est donc Au bord des mondes. Je dirais en fait pour commencer que la plupart du temps, on pose la question à la fois de ce que doit faire l'anthropologie et en même temps la question de ce que c'est qu'une réelle cosmopolitique pluraliste en termes de comment respecter et faire droit à la diversité des mondes, la pluralité des mondes, comment comprendre ces mondes de manière justement réellement plurielle et respectueuse de cette pluralité. Et bien en fait, quand on pose le problème comme ça, on choisit déjà dans le réel quelque chose de limité, ou en tout cas on délimite en fait le réel, puisque le problème c'est qu'il n'y a pas simplement une diversité de mondes, il y a une diversité de mondes et de ce qui est au-delà du monde, quoi. Dit comme ça, ça paraît abstrait, mais en fait c'est assez simple, c'est que... Chaque monde humain, alors parfois on parle de culture, même si le terme est de plus en plus critiqué, a un rapport à l'invisible, à quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et si on n'a pas de cadre ou d'outils théoriques pour comprendre ce qui excède le monde, eh bien, on va se rendre incapable de justement penser cette pluralité non seulement des mondes et des surmondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous partez du principe que la seule chose qui existe... c'est ce monde, la seule chose qui est réelle, c'est ce que je vois, en gros, vous ne vous mettez pas en position de comprendre, justement, la pluralité de ces formes de vie, puisque ces formes de vie ne visent pas simplement ce qui est là ou visible, mais autre chose. Bon. Alors, en termes de limitation de ce que vous aviez appelé le tournant ontologique, ce que tu as rappelé, en fait, il y a plusieurs manières de le dire. La première, c'est que effectivement, il y a une certaine mode, par certains aspects, par beaucoup d'aspects productifs hein, et intéressants de l'animisme, qui au fond nous rappelle que on fait partie de la nature, qu'il n'y a pas de distinction nette ou tranchée entre l'humain et le non-humain, et qui s'intéresse en fait, alors beaucoup à des civilisations amazoniennes, mais c'est pas simplement ça. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs types d'ethnographies qui sont faites. Et en fait, le point de départ du livre, un des points de départ, c'était de dire, mais au fond, pourquoi est-ce que ça marche autant ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne autant ? À quel besoin ça répond ? Et surtout, est-ce que c'est vraiment suffisant, quoi ? Je dirais que la première chose, c'est que l'animisme est non seulement une forme de vie, une tradition, mais que l'animisme, il faut d'ailleurs savoir de quoi on parle quand on parle de ça, dans beaucoup de cas a une part justement spirituelle ou ce que j'essaie d'appeler métaphysique. Mais à mon avis, il y a une retraduction de ce qu'on appelle une adaptation en fait de ce qu'on appelle animisme pour les besoins du public occidental, etc. Une adaptation qui fait qu'au fond, l'animisme, ça passe ou c'est acceptable parce qu'il n'est pas question de Dieu, de Dieu unique. Et au fond, que c'est compatible avec, finalement, un certain nombre d'attendus, en fait, paradoxalement, de la modernité naturaliste. Et que dès lors qu'on commence à parler des esprits, qu'on commence à parler de Dieu, qu'on commence à parler encore pire des monothéismes qui sont très mal vus, probablement on n'aura pas du tout affaire aux mêmes réactions. Donc ça veut dire que, bien sûr, que l'animisme est une forme d'altérité vis-à-vis de l'Occident moderne, mais il y en a d'autres. Voilà. Ce qui me conduit à un autre point qui est que on analyse très souvent, de plus en plus, la singularité de l'Occident moderne en termes de séparation de la nature et de la culture. C'est-à-dire que l'Occident moderne, depuis Descartes, aurait érigé une sorte de frontière entre l'humain, le non-humain, le naturel, le culturel, qui se serait précisé après, durant le 19e siècle, lors de l'invention des sciences humaines, et qu'au fond, c'est ça le principal problème, et que ce qu'on doit faire, c'est remettre en cause cette frontière, donc faire en sorte de dire qu'il y a une continuité entre l'humain et le non-humain, et lorsqu'on aura fait ça, on se sera débarrassé de la dimension coloniale de l'anthropologie. À mon avis, c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est complètement faux, ça veut dire que ça ne suffit pas et que ce n'est pas le seul problème. Autrement dit, la modernité occidentale n'est pas seulement le partage du naturel et du culturel, il y a d'autres partages, celui de la religion et de la politique, de la religion et de la croyance, de la science et de la non-science, qui font que la remise en cause de cette hégémonie moderne passe probablement par d'autres choses. Alors, tu avais mentionné des empires sous la terre. Effectivement, le terme clé de ce livre, c'est sécularisation, qui n'est pas tout à fait la même chose que naturalisme. Alors, pourquoi ? Eh bien, précisément parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est des questions d'analyse historique. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on passe du christianisme à la modernité, par exemple? La plupart des analyses du naturalisme type Descola présupposent qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, parce que comment est-ce que le christianisme donne lieu à ce qu'on appelle le naturalisme? Bon, bah, il reste à savoir comment ça se passe, quoi, et d'analyser un peu les choses. Et en général, même si on dit, ce qui n'est pas ce que je dis, mais bon, qu'il y a une origine chrétienne de l'extractivisme, encore faut-il savoir comment ça se passe, sécularisation étant le terme probablement inévitable. Et l'autre chose que moi j'ai essayé de dire, c'est de dire la colonisation a un rôle majeur dans cette transformation, si tu veux, du christianisme en extractivisme. Et la deuxième chose, je l'ai de certaine manière déjà dit, c'est que je suis moi absolument d'accord avec le fait de dire que la nature est un concept moderne, occidental, missionnaire par certains aspects, et qu'on projette ce terme, cette illusion sur les autres mondes. Aucun problème. Simplement, ça n'est pas du tout la seule construction, et cette construction va de pair avec une autre qui est religion. C'est-à-dire que religion ne va pas de soi, aussi peu de soi, que nature ou culture, ce n'est pas un universel. Et à partir du moment où vous dites la religion, c'est un problème, puisque c'est la source de la plupart des conflits dans le monde, ou au contraire que vous dites la religion est la seule solution pour maintenir l'ordre dans des sociétés X ou Y, dans les deux cas, vous posez un problème qui est chrétien, occidental, etc. Puisque ça n'est pas un universel et qu'au fond, on en est arrivé à croire en la religion, dans la même, tout en arrivant aussi à croire en la nature. Donc en gros, ça signifie que derrière ce mot religion, alors il y a d'autres mots derrière religion, il y a système de croyance, il y a culture, enfin symbolisme ou manière de considérer le monde de manière plus ou moins illusoire d'ailleurs, enfin il y a opium du peuple, etc. Bref, il y a tous ces mots que la culture occidentale a inventé pour essayer de comprendre ce qu'elle appelait le fait religieux, qui à mon avis est une illusion. Donc si on part du principe que ça, c'est pas quelque chose qui existe en soi, mais que c'est une catégorie construite, et que la question c'est pas de savoir qu'est-ce que la religion, mais qui a le pouvoir de définir la religion, et qui fait, a le pouvoir de définir ce qui en est et ce qui en est pas, Alors du coup, on va voir apparaître d'autres problèmes, et la seule question des modernes va pas être juste la question de nature-culture, mais aussi la question du rapport non seulement à la terre, mais au ciel. Voilà.
Et du coup, dans ce contexte, toi, tu essayes de construire un espace dans lequel on pourrait situer, en quelque sorte, les hors-mondes, ou enfin, ce bord du monde. C'est pas seulement le bord, c'est aussi un espace en soi, un tiers-espace, tu dis. Même tu l'appelles, dans ton livre, dans l'introduction, un surmonde, ou même parfois un lieu surmondain ou transcosmique. Du coup, quelles sont les propriétés de ce surmonde et surtout comment on s'y rapporterait théoriquement et quels seraient les effets de se rapporter théoriquement à cela, à ce surmonde, relativement bah, aux divers mondes qui, eux, sont en clos sur eux-mêmes, en quelque sorte.
Peut-être que j'anticipe en disant ça, mais pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est celui des rêves, ou en tout cas d'une certaine interprétation des rêves. Il y a quelque chose que j'ai pas dit et qui probablement devrait être dit dès le départ, c'est que ce qui m'avait moi frappé dans la multiplication de ces ethnographies qui s'inspirent plus ou moins du tournant ontologique, c'était aussi l'absence, je l'ai dit, des traditions spirituelles et des traditions dites, non pas que l'animisme n'en soit pas un, mais des traditions qu'on dit monothéistes. Bon. Et enfin, c'est pas le propos là, mais je pense que même ce terme de monothéisme devrait être questionné, remis en cause. Mais j'étais très frappé, notamment par l'absence d'un certain nombre de questions, de traditions comme le soufisme, par exemple, etc., dans les problématiques qui sont posées, quoi. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'avais découvert effectivement un certain nombre de travaux qui parlaient de l'expérience du rêve, en gros dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord. Là en l'occurrence, c'était le terrain en question auquel je pense, c'était en Égypte. Et au fond, qui montrait que le récit des rêves, l'expérience même du rêve, le récit des rêves, était encore fait aujourd'hui. Non seulement le rêve était lui-même vécu de cette manière, mais aussi les rêves étaient interprétés à travers cette tradition d'interprétation soufie des rêves, où en fait les catégories d'un auteur extrêmement important du soufisme, je pense, qui s'appelle Ibn Arabi, en fait, ne sont pas juste des catégories philosophiques abstraites, mais en fait servent à l'interprétation des rêves elles-mêmes. Donc ça fait partie des formes de vie elles-mêmes. Bon. Alors, pourquoi est-ce que là, on a affaire à une sorte de surmonde ou de bord des mondes? Bon, déjà, le bord des mondes peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il est une traduction possible d'un terme en arabe qui est barzakh. Donc Barzakh, qui en fait signifie frontière, mais aussi espace entre deux choses. Et donc l'hypothèse en fait qui à la fois, enfin qui est une hypothèse interprétative en fait, consiste à dire nos rêves n'ont pas lieu simplement dans notre esprit, ce ne sont pas simplement des faits psychologiques, mais ce sont en fait des manières d'avoir accès, non pas vraiment à un autre monde, mais à un monde entre les mondes. C'est pas pareil. Et alors pourquoi est-ce que c'est intéressant théoriquement? Parce que on voit là qu'il n'y a déjà pas besoin, pour faire droit à ses rêves, d'amener une sorte de concept d'ontologie qui viendrait d'ailleurs, alors que ce soit, parce que ça dépend des auteurs, mais je sais pas moi, Deleuze ou Whitehead, ou qui en définitive, même si ce sont des auteurs pluralistes, restent des auteurs européens. Non, en fait, on a affaire là à une tradition interprétative, philosophiquement absolument légitime et tout aussi complexe, si ce n'est plus complexe, qui dit, voilà, en fait, le rêve a lieu dans un endroit qui remet en cause des partages, qui sont justement des partages ontologique, c'est-à-dire que le rêve a lieu dans un espace qui à la fois est et n'est pas, qui remet en cause le partage entre la présence et l'absence, le mort et le vivant, etc. Donc en fait, c'est un espace qu'on pourrait presque dire dialectique, puisqu'il remet en cause ses oppositions, ses binarismes, etc. Et en fait, l'argument consiste à dire, oui, effectivement, ça répond aussi à une de tes questions. C'est que la raison pour laquelle moi je me suis intéressé à ces questions anthropologiques en tant que philosophe, c'est justement à cause de ce terme d'ontologie, qui est donc le discours sur l'être, et qui me paraissait être un terme extrêmement vague, pas universalisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des ontologies partout, puisque le terme d'ontologie est lui-même chargé, en tout cas, de présupposés très grecs, et présuppose que le réel, c'est de l'être. Bon. Et là, en fait, si on s'intéresse à cette tradition, disons, soufie d'interprétation des rêves, on voit en fait que le réel est absolument réel, mais précisément parce qu'il n'est ni dans l'être, ni dans le néant, ni dans l'être, ni dans ce qui n'est pas l'être, quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui fait complètement imploser et qui fait se dissoudre ce qu'on appelle l'ontologie. Donc c'est un exemple qui montre que dès lors qu'on commence à parler de quelque chose qui est métaphysique ou qui excède les mondes, bah, en fait, l'ontologie, elle se dissout. Voilà.
Dans le texte pour Barzakh, tu dis que ça peut être traduit par « isme ».
Ouais. Ouais, pays de traduction.
La petite bande de terre entre deux océans qui les séparent tout en les reliant. Et d'une certaine manière, le geste de reprendre le rêve, enfin l'espace onirique, contre les compartimentations, les régions de l'être, l'ontologie, c'est une sorte de manière de répondre au divers schisme entre les mondes par un isme qui les entoure et qui leur permettent de communiquer en quelque sorte. Et ce que je veux dire à travers cette espèce de métaphore, c'est que toi, tu vas essayer de ce que tu essaies de chercher, c'est... on a vu qu'il y avait, par exemple, avec Descola, quatre ontologies, et d'une certaine manière, c'est une sorte de clôture entre ces quatre ontologies. Toi, tu essaies de décloisonner ces quatre ontologies qui deviennent des mondes qui se feraient la guerre, à travers quelque chose de plus unifié, qui a une certaine unicité. Et qui serait cet espace onirique partageable, partagé, et en même temps pas défini dans son contenu propre.
Mais en fait, pour moi, le fait de parler de l'expérience du rêve et de cette idée sur laquelle il y aurait un lieu des rêves et donc un espace onirique, c'est juste une manière de faire sentir comment est-ce que... il y a des techniques, en fait, des pratiques qui sont à la fois des techniques de l'âme et du corps qui, pour celles et ceux qui les mettent en place, donnent accès à quelque chose qui n'est juste pas visible et qui est métaphysique au sens où ça n'est pas de ce monde, quoi. Bon. Alors justement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pour ça que tous les termes qu'on a employés pour faire droit ou décrire ce qu'on a appelé les religions, alors dans ce vocabulaire, il faut mettre croyance au premier chef, mais il y en a une infinité d'autres, le sacré par exemple. Mais toutes ces catégories sont des catégories de l'anthropologie coloniale. Donc moi, ce que je cherche, c'est de trouver un autre vocabulaire pour comprendre ce qui se passe à travers ces expériences-là. Et si tu veux, la question du rêve est plutôt la question de savoir quelles sont en fait les parts de notre expérience que tout à chacun peut faire et surtout comprendre, dans d'autres contextes, pas forcément des contextes modernes, sont aussi des manières ou des expériences qui donnent accès à juste autre chose que du visible, quoi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse n'est pas nécessairement d'essayer d'objectiver en fait cette expérience-là d'une manière différente, ou en tout cas de juste changer les mots, mais de faire la même chose, c'est-à-dire de dire par exemple qu'est-ce que le fait religieux, etc., qui sont vraiment les dernières questions qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que en fait, à cet endroit-là, dans ce geste, en fait, on peut en fait faire sortir la philosophie de son carcan eurocentrique, en fait. Puisque précisément, disons que la question de la décolonisation du savoir et de la philosophie a beaucoup été posée en termes, disons, entre guillemets, horizontaux, effectivement, du type, est-ce que tel ou tel paradigme est purement européen, ou est-ce qu'il va fonctionner pour expliquer les sociétés dans ce qu'on appelle le sud global. Mais en fait, ça, c'est manquer une part de la question. Et pour en parler, je mentionne en fait le travail de quelqu'un qui s'appelle Dipesh Chakravarti, dont le livre a été du coup traduit en français, provincialiser le rap. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce livre, il y a une, notamment au début, il y a un passage qui est très important et qui a été peu retenu, probablement parce que même les auteurs postcoloniaux et décoloniaux ne savent pas tellement quoi en faire, où il dit, donc il cite un débat entre un historien des études dites subalternes, qui s'appelle Guha, et un historien marxiste. Et en fait, ce qui se passe, en gros, c'est que cet historien indien dit que pour étudier notamment la révolte des Sipahis, donc qui est une révolte disons pas anticoloniale au sens où, enfin elle est anticoloniale, mais c'est pas les décolonisations du XXe siècle, c'est plutôt une résistance en fait au colonialisme britannique qui a lieu en fait au milieu du XIXe siècle. Et la question de savoir, la question qui se pose en fait, c'est celle de savoir comment on écrit les histoires, l'histoire de ces révoltes, sachant qu'on a peu d'archives, mais aussi que la voix des paysans insurgés justement ne trouve pas d'expression écrite. Et la question est de savoir voilà comment est-ce qu'on fait l'histoire de ça. Et en fait, ce qu'il dit globalement, c'est que bien sûr qu'il y a cette question du rapport à l'écrit se pose, mais que la principale question, la principale difficulté, c'est que pour ceux et celles qui ont agi à l'intérieur de ces insurrections, précisément parce qu'ils étaient, nous on dirait, fidèles ou religieux, en fait ce qui s'est passé, c'est que pour eux, ils n'agissaient pas simplement en tant qu'humains, ou plutôt, ils agissaient à travers une insurrection où ils étaient en alliance avec des forces non humaines, mais le non humain ici, c'est pas la plante et les animaux. Le non humain, ce sont justement des esprits et des dieux. Bon. La question qui se pose, c'est de dire, en fait, pour comprendre cette lutte, disons, de décolonisation ou de résistance au colonialisme, il faut complètement sortir du paradigme des sciences humaines, non pas simplement du paradigme, c'est-à-dire il faut pas ne pas faire de terrain, etc., c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire il faut sortir des présupposés, justement, ontologiques, moi j'aurais tendance à dire métaphysiques, de ces sciences humaines, c'est-à-dire qu'au fond, tout le monde va avoir pour point de départ de dire, non mais, les dieux, les esprits, ça n'existe pas. Donc, ce sont des produits de leur imagination, éventuellement quelque chose qu'ils inventent puisqu'ils ont besoin du sacré, ou ce genre de choses. Bon. Et en fait, ce qu'il dit, Guha et du coup aussi Chakrabarti, disent en fait, ben non, précisément, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de remettre en cause ces présupposés-là, qui consistent à dire, ben non, ça n'existe pas, pour justement transformer le savoir de manière à faire en sorte que ces dimensions du discours des acteurs et donc de la résistance effective au colonialisme, que ça soit pris en compte. Voilà. La question, c'est de savoir du coup maintenant comment. Quoi.
Dans ton livre, tu poses vachement bien la dichotomie ou le problème en disant en gros, si on ne reconnaît pas l'existence des entités métaphysiques auxquelles renvoient les Sipahis ou autres, alors, en fait, ce qu'on prend comme point de vue, c'est le point de vue colonial. Mais en revanche, si on reconnaît cette existence en disant « oui, il y a bien des dieux, il y a bien des esprits », alors, ça veut dire qu'on accepte de croire sur parole, en quelque sorte, de ce qui est dit. Et toi, tu essaies de te situer entre les deux, théoriquement, ni croire absolument, bon, ils ont dit ça, donc c'est vrai, ni prendre le point de vue de négation, qui est lui aussi colonial, et en fait, d'une certaine manière, encore chrétien. C'est ce que tu dis, et j'ai trouvé, du coup, c'est connecté à l'idée d'impérialité, il me semble, mais bon, peut-être que tu peux le développer, ce lien entre...
Ce à quoi tu fais référence, c'est effectivement un passage du livre qui consiste à présenter une sorte de scepticisme théologique ou de suspension du jugement quant à la question de l'existence de ces réalités invisibles. Donc, il y a un exemple, en fait, qui se trouve à la fois dans le premier livre que tu mentionnais, Des Empires sous la Terre, et qui, en fait, est repris dans ce livre, qui est celui des dragons sous la Terre. Bon. Des dragons souterrains, puisqu'il y a cette archive, effectivement, qui est une archive coloniale enfin, c'est quelqu'un qui s'adresse, en fait, à un administrateur colonial en Indochine, et qui, en fait, voudrait, en fait, exploiter une mine de charbon, et, en fait, rencontre un mandarin, en gros, qui lui dit « Non, c'est pas possible d'exploiter la mine, puisque elle est, en fait, habitée par un dragon qui, d'ailleurs, épouse le corps de la mine lui-même, en fait. C'est-à-dire que la mine, c'est le dragon. » Donc là, je voudrais... Enfin, Disons qu'en fait, l'idée c'était de dire, ah, mais ça pose un problème méthodologique, puisque d'un côté, il y a effectivement le point de vue de l'archive coloniale qui consiste à dire, c'est une superstition. Ça n'existe pas, évidemment qu'il n'y a pas de dragon sous la terre. Mais c'est un point de vue qui est situé, puisque il déploie une certaine, alors on pourrait dire métaphysique locale, il déploie un vocabulaire aussi de disqualification comme celui de superstition, donc il y a un terme romain, on pourrait de revenir là-dessus. Donc il présuppose une limite du réel et de l'irréel, et puis en plus il a non seulement un intérêt, mais il est engagé dans une pratique qui est en gros l'extractivisme, puisque ce qui l'intéresse, c'est de dire ça n'existe pas, donc les sous-sols sont exploitables, et notamment le charbon comme combustible. Donc ça, pour le coup, ça participe de cette dynamique de sécularisation que j'avais essayé d'analyser en disant bah, il faut désenchanter le sous-sol, il faut dire qu'il n'y a rien derrière ou en dessous, sous nos pieds, pour pouvoir faire en sorte d'exploiter le charbon. Donc ce n'est pas juste une question matérielle, etc. Et de l'autre côté, effectivement, il y a la possibilité de dire, bon, bah, ça c'est un point de vue colonial, donc il faut, pour être décolonial, dire qu'il y a effectivement un dragon souterrain, etc. Et à mon avis, ça tient pas non plus. C'est pour ça, au fond, et ça fait le lien avec la question du rêve, c'est que la question, c'est pas de savoir ça existe ou ça n'existe pas. C'est pas ça la question. La question, elle est de dire que ce sont des réalités, ce qui n'est pas la même chose de dire que ça existe ou ça n'existe pas. Ce sont des dimensions du réel qui sont en fait déployées par un certain type de discours situé dans des traditions, quoi. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire que la question de savoir si ça existe ou pas est une question qui n'intéresse pas un point de vue critique, en fait. C'est pas ça qui nous intéresse. La question, elle est plutôt de décrire comment ces réalités-là, en fait, sont composées, et surtout le fait de dire que si on décide que ça n'existe pas, ces dragons souterrains, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça, c'est une vraie question. Et là, ça, pour le coup, on peut l'observer, c'est que si vous dites que ça n'existe pas, du coup, l'exploitation est possible, et de fait, ça va avoir un rôle dans ce qu'on va appeler ensuite, ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique. Mais c'est simplement pour remettre, en fait, ces questions-là un peu au centre. Mais il y a un autre exemple, en fait, qui me vient en tête, peut-être pour que ça soit plus clair, c'est... Il y a un exemple qui est très souvent cité, qui est celui des fleuves, ou plutôt des droits attribués à des fleuves. Bon, dans la littérature écologiste, etc., c'est très important, à juste titre. Et en fait, ça, c'est Latour qui dit ça à un certain moment donné, et d'autres l'ont dit, mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire de dire qu'au fond, si vous regardez le Gange, par exemple, on ne peut pas lui attribuer des droits s'il n'était pas considéré comme sacré. Bon. Ce qui montre, et c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, que cette question-là se pose. Donc moi, à la différence de Latour, je ne pense pas qu'on puisse employer le terme de sacré comme si ça allait de soi. Mais donc, c'est quoi et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, quoi. Bon. Et là, ce qui m'avait intéressé, c'était de voir que dans un des textes de loi qui a été fait justement pour reconnaître un de ces fleuves, je pense que c'est en Nouvelle-Zélande, le texte de loi faisait référence non seulement aux propriétés physiques et métaphysiques du fleuve. Donc la question, c'est de dire, mais pour que nous, on puisse reconnaître un titre juridique à ces entités-là, justement, on ne peut pas les considérer que comme naturelles. Et le fait qu'elles ne soient pas uniquement naturelles, c'est pas seulement parce qu'on est lié à elles et que nature-culture est une division qui ne fonctionne pas, ça c'est vrai, mais c'est aussi tout simplement parce que le fleuve n'est pas simplement naturel, parce qu'il est physique et métaphysique. Donc il est connecté à, entre guillemets, de l'invisible, voire du céleste, quoi. Et ça, c'est une dimension à laquelle nous n'avons plus à faire, ou nous ne savons plus comment y avoir à faire, quoi.
Tu viens de parler de croyances,
Ouais.
et dans je crois que c'est vers le milieu du livre, tu reprends et poursuis les réflexions d'un anthropologue qui s'appelle Talal Assed, qui est malheureusement assez peu lu et travaillé en France. Et du coup, dans Au bord des mondes, tu restitues une partie de ses travaux et tu t'en proposes aussi une lecture critique. Et toujours dans ce but, du coup, d'ouvrir le champ de la recherche vers une anthropologie métaphysique. Un des leviers particulièrement fertiles, on peut dire, de ton analyse, prend donc pour support la critique des concepts de croyance et de religion. tu racontes dans ton livre qu'on traduit souvent par religion le terme din en arabe, ce qui est réducteur, voire un peu un dévoiement de sens, quoi. Et chez Assad, ce terme, il renvoie davantage à la manière dont on vit et pas à celle dont on croit. Tu parles d'un deuxième terme, celui de Mila, qui renvoie à la communauté de croyance, c'est-à-dire à ce qui est commun. Ce qui est commun aux différentes communautés, donc il y a le mot Umma qui est assez connu en arabe pour qui renvoie la communauté, et donc tu parles aussi de Al-Farabi qui parle de la Mila comme l'ensemble constitué d'opinions et d'actions prescrites à une communauté par son fondateur. C'est donc plutôt une définition pratique et dynamique de la religion. Et qui recoupe des règles éthico-juridiques et qui concernent là des manières de faire et d'agir. C'est une question un peu longue, je suis désolée. Le caractère vertueux de la pratique religieuse, dans cette conception, elle repose sur la vertu du fondateur, c'est-à-dire sur sa volonté de faire le bien et sa capacité à identifier comment œuvrer pour le bien de la communauté. Ici, le politique est inséparable de l'éthique. Mmh. Et c'est ce que tu développes hyper bien dans ton livre. Et l'éthique elle-même, elle dépend d'une métaphysique de la prophétie. Le fondateur, il doit connaître le bien, et c'est la fadil, la vertu, qui articule opinion et action. Donc à l'intérieur de ce système de valeurs et de pensées, l'opposition entre raison et religion, entre croire et savoir, elle marche plus, elle est complètement inopérante. Et à partir de ce nœud-là, tu mets en avant la nécessité, je cite, de « trouver une méthode » qui restitue le déploiement d'un acte discursif à travers les pratiques religieuses, tout en saisissant la structure sociale à la manière d'un environnement d'énonciation. Pratiquement, peut-être même, je sais pas, sensiblement, à quoi est-ce que tu imagines que ça peut ressembler, et où est-ce que ça se situe, en fait, la puissance d'une anthropologie ou d'une manière de parler du monde qui s'intéresse d'abord à la manière qu'on a de penser et de raisonner depuis l'intérieur des traditions.
Ok, il y a beaucoup de questions.
Pardon.
En une. Je vais commencer par quelque chose de très simple qui va nous faire reparler d'ontologie. Il n'y a pas d'ontologie musulmane, il n'y a pas d'ontologie islamique. Si tu pars du principe qu'il y a une ontologie musulmane, je pense qu'on pourrait dire la même chose, il n'y a pas d'ontologie chrétienne, il n'y a pas une ontologie juive, par exemple. Donc on voit très bien la limitation assez radicale de ce vocabulaire-là. Bon, clairement, ça ne marche pas. Et si ça marchait, ça nous ferait tomber dans la pire des solutions théoriques qui serait une forme d'orientalisme, c'est-à-dire l'ontologie musulmane nous dit que Dieu est un, donc il faut, être intolérant avec tous les infidèles parce que ça se déduit de l'essence même du dogme de l'ontologie monothéiste. Bon. Ça serait en fait la pire des choses, et d'un point de vue critique et scientifique, c'est exactement ce qu'il faut éviter, ou en tout cas ça serait une continuation de l'orientalisme très problématique. C'est la première chose. Donc, ça montre qu'au fond, la manière dont ça fonctionne, être infidèle, infidèle, mais aussi potentiellement infidèle, justement, à ces traditions, c'est quelque chose de beaucoup plus multiple, subtil et je dirais presque contradictoire. Alors, je vais essayer de dire pourquoi. Si vous dites « une religion, c'est un système de croyances », vous dites effectivement, comme j'ai dit, qu'il y a une doctrine, ou un certain nombre de doctrines, un texte, et que les fidèles, ceux qui suivent, ceux et celles qui suivent cette source, seraient absolument déterminés dans leur comportement par ce qui a été dit dans ces textes, quoi. Ce qui est en gros une posture, c'est un peu la posture d'extrême droite qui disent, vous voyez, dans tel ou tel journal où c'est marqué le Coran enfin révélé, avec telle et telle figure d'extrême droite qui dit, voilà, j'ai lu le Coran et d'un coup j'ai découvert qu'il y avait des sourates violentes, donc les musulmans sont violents, etc. etc. Bon, on est en pleine pensée réactionnaire, etc. Bon. En gros, c'est ce que... Alors, évidemment que j'exagère, mais c'est ce que ça donne dans la mesure où c'est cette espèce de pensée verticale qui déduit à partir d'un noyau, et c'est absolument pas comme ça que fonctionnent effectivement ces traditions. La première chose à dire, c'est qu'une communauté de fidèles, c'est une communauté en désaccord. Voilà. Et que passer, comme vous me le demandiez, du terme religion à celui de tradition, c'est pas passer juste d'un mot à l'autre, c'est de passer d'un mode de pensée à un autre. Et ce qui se passe, c'est que quand vous entrez, quand vous faites partie de l'espace d'une tradition, alors il faut savoir ce que ça veut dire, l'espace d'une tradition, mais vous n'entrez pas comme ça en accord spontané avec quelqu'un d'autre. Vous vous mettez d'accord éventuellement sur des sources que vous reconnaissez, mais la première chose qui se passe en général, c'est que vous allez entrer en désaccord sur l'interprétation des sources, sur leur sens, et surtout sur ce qui doit être fait. D'où le fait que la question du pouvoir se joue, et d'où le fait que, bien sûr, il y a une conflictualité qui est à l'œuvre à l'intérieur de ces traditions. Par ailleurs, cette tradition anthropologique que j'essaie à la fois d'introduire et de discuter, elle parle non seulement de tradition, mais de tradition discursive. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des discours situés, incorporés à travers des pratiques, et qui habitent l'espace d'une transmission plurigénérationnelle, mais que ce discours, on ne peut pas juste dire c'est une croyance, c'est un discours. C'est-à-dire que c'est une manière de faire et une manière de dire. Il n'y a rien qui permet de dire que par essence, ces traditions-là sont d'une nature absolument différente des autres manières de faire ou de dire qui, d'un côté, seraient profanes et celles-là seraient religieuses, donc elles auraient quelque chose d'absolument différent. Non, ce sont des manières de faire et de vivre qui sont, par certains aspects, ordinaires, quoi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu, effectivement, parler de cet auteur, Talal Assad, et de son héritage et de mais en même temps d'en donner la critique, bon, enfin une certaine forme de critique. Il faut savoir tout de même que c'est en fait l'inventeur des études postcoloniales, parce qu'il a publié dans les années 70, au début des années 70, en 73 plus exactement, un texte qui s'appelait Anthropology and the Colonial Encounter, donc l'anthropologie et la rencontre coloniale, et qui est un texte assez intéressant. Dans la mesure où, en fait, il montre la dimension coloniale de l'anthropologie, mais aussi il essaie de montrer dans quelle mesure l'Occident, au fond, s'est représenté à travers un certain type d'image, la manière dont fonctionne le pouvoir dans les autres sociétés. Il parle de l'Orient et de l'Afrique, et en fait, c'est un texte qui ensuite est cité par Saïd, et qui, en fait, est une des sources d'inspiration de l'orientalisme d'Edouard Saïd, puisqu'il met en place, en fait, cette méthode avant Saïd lui-même. Sauf que Assad a pris après une autre... Disons qu'au fur et à mesure que les études postcoloniales se sont déployées, il a pris une autre direction, une autre voie, quoi. Et notamment, elle a été ouverte par la critique de ce concept de religion, dont il a été un des premiers à montrer qu'elle avait un rôle dans, si vous voulez, l'histoire coloniale, et notamment dans la construction de l'anthropologie elle-même. Pourquoi ? Parce que les premiers ethnographes, ethnologues, qui sont en fait des missionnaires, arrivent en Amérique, enfin ce qui va être appelé ensuite l'Amérique du Sud, et en fait se posent la question de savoir si les indigènes non seulement sont humains ou non, mais aussi si les indigènes ont une religion ou non. Et le fait de savoir si ils ont une religion ou non, s'ils ont accès à une sorte de conception naturelle de ce que serait Dieu, va permettre de savoir s'ils sont convertibles ou non, si on peut les convertir au christianisme ou non. Les partisans d'une sorte de non pas d'une conversion, mais d'une sorte d'extinction massive de génocide, au fond, quoi, des Amérindiens comme Sepúlveda durant la controverse de Valladolid, a plutôt une conception qui d'ailleurs vient des croisades, donc elle n'est pas sans lien avec le rapport que l'Occident entretient avec l'islam, consiste à dire au fond ils sont diaboliques, quoi. Et Las Casas, au fond, déploie les prémices d'une anthropologie religieuse en disant non, en fait, ils ont effectivement une fausse religion, mais précisément s'ils ont une fausse religion, ça veut dire qu'ils sont potentiellement convertibles à la vraie religion. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme religion, si vous regardez les écrits de cette époque, mais aussi ça se déploie probablement sur 3 siècles au moins, l'usage du mot religion change de manière très intrigante et intéressante. C'est que, au fond, pour faire très rapidement, religion, ça va signifier la vraie religion, donc le christianisme, donc ça a un sens immédiatement théologique, normatif en un sens, c'est-à-dire c'est la bonne religion. Et en fait, progressivement, on va commencer à employer des termes comme religion, mais aussi temple, église, etc., comme des termes anthropologiques et descriptifs, c'est-à-dire en disant non mais les Amérindiens ont des temples, ils ont quand même une religion, et en fait c'est très hérétique de dire ça, dans la mesure où normalement c'est la seule vraie église, c'est l'église chrétienne, mais sauf qu'on va commencer à employer ces termes, et c'est des missionnaires qui font ça, pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un geste d'universalisation à l'œuvre, projection de ces termes, par traduction évidemment, religion, église, etc. Croyance en fait partie. Et du coup, en retour, ça va avoir un impact sur un effet sur les chrétiens eux-mêmes, puisque ça va transformer en fait le vocabulaire pour parler de leur propre tradition religieuse, justement. Donc on voit que là, il y a une part en fait de tout ce qui rend l'anthropologie coloniale qui est déjà à l'œuvre et qui se joue autour de ce terme, de l'invention de ce terme religion. Donc du coup, à mon avis, disons, Assad est important dans la mesure où il a ouvert la voie à ces questions. Alors tu mentionnais Al-Farabi, ça c'est encore un autre problème, c'est que en fait à un moment donné je me dis simplement que la critique que fait Assad n'est pas suffisante en fait, dans la mesure où si on en reste à la manière dont lui opère la critique du concept de religion en disant voilà ce sont des croyances, en disant que ce ne sont que des croyances, donc ça met de côté, lui il pense plutôt le fait que ça mette de côté la question du rituel et de l'importance des pratiques. Et moi, je pense que c'est pas suffisant de voir les choses comme ça, mais c'est simplement une objection que je lui fais, en un sens, je me fais à moi-même, en disant, bon, alors ça marche pour un certain nombre de concepts, effectivement, arabes, en langue arabe, du type din, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose qu'une manière de croire. Bon, très bien, mais il y a un autre terme comme Mila, qui semble, notamment chez un philosophe comme Al-Farabi, qui semble ressembler, en fait, à ce que nous on appelle religion, parce qu'il essaie d'en donner une définition qui tend à être universelle, quoi. Et donc, en fait, j'essaie juste de répondre à l'objection en disant c'est plutôt un terme qui a vocation non pas à définir une sorte d'universel anthropologique, mais plutôt quelque chose qui a trait à la manière dont s'organisent des communautés. Et en fait, au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que les définitions à la Durkheim, par exemple, qui sont héritières de cette histoire missionnaire dont je parlais, sont pas du tout les mêmes que les définitions qu'on trouve bien avant dans la philosophie de Al-Farabi, par exemple, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a cette question du rapport, comme tu le disais, à un fondateur et à une dimension, disons, métaphysique de la prophétie, qui est quelque chose qui a beaucoup plus trait à la manière dont ces auteurs ont discuté Platon qu'autre chose. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a affaire là, non pas que je pense que la définition d'Al-Farabi soit en soi défendable, hein, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt de faire un travail comparatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un cadre de pensée où, justement, cette dimension métaphysique du réel n'est pas du tout mise de côté, là où de plus en plus en Occident les définitions du fait religieux ou de la religion ont servi à humaniser totalement ce rapport métaphysique au réel, en disant tout ça au fond ne sont que des projections de l'être humain qui invente le sacré et invente des dieux. Donc, si vous voulez, la question, qui n'est pas une question contre le tournant ontologique ou contre cette idée de remettre en cause cette sorte d'anthropocentrisme dont on hérite plus ou moins du christianisme et de la modernité, mais là, la question que j'aimerais poser, c'est de dire, mais si on pense que l'être humain a cette espèce de capacité d'inventer toutes les choses et que, par exemple, les esprits, les dieux, etc., bon, ça veut dire qu'on ramène tout, en fait, à la centralité de l'humain. Donc, bon, si on veut mettre en cause cette centralité de l'humain et cette réduction de tout à des projections humaines, bon, bah, comment est-ce qu'on analyse différemment, par exemple, ce type de questions et le rapport, voilà, à ce que parfois on appelle la transcendance. Alors moi, j'essaie de me débarrasser de ce terme de transcendance, parce qu'il fonctionne par opposition à immanence, donc j'essaie de remettre en cause cette espèce de partage, d'où le fait d'utiliser métaphysique dans ce sens-là. Mais voilà.
Ce que tu as dit juste avant de parler de Al-Farabi, moi je trouve que c'est un truc excellent dans ton livre, c'est le moment où tu vas essayer de montrer une sorte de généalogie de l'anthropologie qu'on connaît, au moins même de l'anthropologie structurale, et tu vas montrer qu'en fait le geste de l'anthropologie structurale, l'idée que bah, y aurait une structure à laquelle les peuples qu'on étudie n'auraient pas accès, mais que l'anthropologue lui pourrait découvrir, tu montres que ça rejoue vraiment la structure du geste colonial lui-même chez les missionnaires, en disant que au fond, on a la même matrice, parce que ce que vont dire les colonisateurs missionnaires quand ils vont essayer de les convertir, et ce qu'ils vont dire, c'est que, ou bien, comme tu l'as dit, ils sont agis par le diable, ils savent pas ce qu'ils font, parce qu'en fait, le diable les contrôle de manière obscure, ou bien ils partagent une vision confuse et pas claire de Dieu et de la cité de Dieu, ce que tu viens de dire l'instant. Mais je trouve, moi, je le rappelle juste pour le relier au fait que cette espèce de structure qui est, soit ils sont agis par le diable, soit en fait ils sont axés à Dieu, mais d'une manière confuse, et nous, on va voir comment telle construction qu'on va identifier comme religieuse est en fait un temple qui, de près ou de loin, parle de notre Dieu chrétien, etc.
Ouais.
Je veux le relier au fait que toi, tu vois une sorte d'origine coloniale qui se perpétue à travers des concepts comme la structure ou le symbolique dans l'anthropologie des années 60, qui est juste avant le tournant ontologique, et que le tournant ontologique en partie prolonge. Est-ce que tu peux revenir du coup sur ce statut de la structure qui est en fait le même geste colonial ? En quel sens c'est le même geste colonial ? Comment ça fonctionne ?
Mais c'est comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, je m'appuie sur un des ethnographes missionnaires dont j'ai parlé, qui s'appelle José de Acosta, qu'on pourrait considérer comme un des inventeurs de l'anthropologie, mais bon, ça se débat en tout cas, ça se discute. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, lui, il essaie d'expliquer notamment les sacrifices humains que font les indigènes en fait du Mexique, en disant effectivement qu'ils sont probablement possédés par le diable, donc c'est pas vraiment eux qui le font, et surtout ils sont inconscients des raisons qui les déterminent. Donc, mais là, c'est la force. Là, pour le coup, non humaine, qui les détermine, c'est le diable. Bon. Et du coup, cette manière, en fait, de considérer qu'il y ait quelque chose d'inconscient dans ce que font les civilisations elles-mêmes, c'est une manière, en fait, aussi, qu'on retrouve, en fait, dans le fait de dire qu'on ne peut pas vraiment prendre au sérieux ce qu'ils disent de leur propre pratique, puisque ce qui explique ce qu'ils rencontrent du sens de ce qu'ils font est autre chose que ce qu'ils vont dire, quoi. Bon. Alors, le symbolique, c'est encore autre chose, mais c'est lié dans la mesure où... je réfute pas le... Enfin, il y a du symbolique à certains endroits, mais... et je dis pas que ce concept devrait être complètement aboli, mais dans certains cas, il sert en fait à dire, au fond, une pratique déterminée. On pourra toujours écouter ce qu'un fidèle va nous dire concernant sa pratique, ou un autochtone concernant sa pratique, mais on pourra toujours dire, ah, ça symbolise une vision du monde qui est plus générale, etc. Bon. Et effectivement, ce sont des opérateurs à travers lesquels, sous des manières différentes, enfin, sous des formes différentes, on fait toujours le même geste consistant à dire, au fond, il y a une sorte de structure inconsciente dont les peuples en question n'ont pas tout à fait conscience, et qui les détermine à agir tel qu'ils agissent. Et effectivement, il me semble que cette idée d'inconscient structural qui avait été proposée par Lévi-Strauss, qui vraiment insistait sur le fait de dire qu'il ne fallait pas prendre en compte l'interprétation que les indigènes se faisaient de leur propre société, est une manière de dire qu'au fond, seule l'Europe comprend pleinement le secret de ce que font les autres peuples, parce qu'eux-mêmes n'ont pas accès à la conscience de ce qu'ils font ou des causes qui les déterminent. Donc ça veut dire tout de même que c'est seulement via l'anthropologie que ces peuples peuvent, au fond, découvrir ce qu'ils font vraiment. Bon. Du coup, voilà, ça me paraissait simplement être quelque chose d'important à dire, sachant que effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui a complètement disparu des écrits anthropologiques, mais qui prend des formes un peu différentes. Alors là, effectivement, je dois aussi dire que je me suis beaucoup inspiré d'un article qui avait été écrit par Assad et qui a eu une très grande influence, parce qu'il avait été reproduit dans un texte qui s'appelle Writing Culture, qui est un texte, un volume collectif, où plusieurs anthropologues, en fait, dans les années, je pense, des années 90, avait essayé de montrer le rôle en fait de la des pratiques d'écriture en fait dans la constitution de ce qu'on appelle une ethnographie. C'est pas du tout quelque chose de qui va de soi comme ça, mais c'est aussi un geste littéraire de reconstruction de l'expérience par une mise en récit. Et au fond là dedans dans ce texte, enfin sa contribution, il explique quelque chose qui me paraît très important et que lui avait appliqué à l'anthropologie britannique et que j'essaie en fait d'appliquer à une part de l'anthropologie française, qui consiste à dire que on fait une sorte d'hypostase et de mauvaise déduction quand on dit « Ah, les peuples ou tel peuple autochtone a un certain nombre de pratiques qui sont tellement ordinaires et intériorisées qu'au fond, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font puisque justement, ça fait partie d'un habitus. Donc, en fait, ce sont des normes qui sont tellement intériorisées qu'elles ne sont pas rendues explicites. Mmh. Et Assad dit, à mon avis, à juste titre, c'est pas parce que quelqu'un n'explicite pas la norme qui le détermine que cette non-explicitation veut dire qu'il y a quelque chose d'inconscient en dessous. Voilà. Et ça me paraît être une hypostase, littéralement, donc un arrière-monde, qui est que parce qu'il y a une absence de verbalisation, vous allez supposer que derrière l'absence, il y a quelque chose qui se cache. Et ça serait la structure. Bon. Dans le cadre du tournant ontologique, alors ça dépend des auteurs, chez Descola, ça s'appelle les schèmes de la pratique, donc c'est-à-dire des schèmes qui sont eux-mêmes inconscients et qui déterminent en fait justement ce qu'il appelle les ontologies. Quoi. Bon. À mon avis, on a affaire à grosso modo au même type de faits structuraux. Et l'autre chose, je pense qu'il faut insister, c'est l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de réflexivité, donc de manière dont les peuples pourraient réfléchir sur ce qu'ils font. Et alors là, effectivement, j'essaie de dire, je pense, en m'appuyant sur plusieurs travaux qui ne sont pas des travaux qui appartiennent au tournant ontologique, qu'au fond, il y a des parts réflexives et des parts non réflexives. Mais et une philosophie, par exemple, enfin dans le cadre de la philosophie, je ne sais pas moi, oui, si on devait prendre le cadre des dites philosophies musulmanes, bon, bah là, clairement, on est dans une part de réflexivité interne à la tradition. Bon, ça n'empêche pas que quand certains fidèles vont prier, qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font ou qu'ils soient justement dans une forme d'abolition ou d'une conscience de ce qu'ils font, puis c'est précisément parce qu'ils ont formé cette disposition d'une manière telle qu'elles en deviennent non réflexives. Bon. Mais il y a toujours deux parts qui coexistent, réflexives et non réflexives, et c'est impossible de dire « Ah bon, il n'y a pas de réflexivité, donc on va essayer de chercher le système sous-jacent qui explique comment fonctionnent ces civilisations-là, etc. Bon. » Donc en fait, c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Bah, si, en grande partie. Moi, je trouve ça assez très très fort et fascinant, cette continuation, en fait, d'un geste qui reste traqué, ou bien le diable, ou bien Dieu, qui est en train de se manifester dans les pratiques des autres, alors que ça ne les concerne même pas.
Là, le diable devient la structure.
Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est assez fascinant. Ça me fait penser au texte de Freud où il débat entre l'inconscient et la possession diabolique, et il montre que lui il veut couper la continuité, mais toi en une certaine manière tu la redonnes, la resitues.
Donc il y a quelques jours, il y a un de nos amis et contributeurs occasionnels à lundi matin qui nous a parlé d'une notion, je sais pas si tu connais, qui s'appelle la fogara, avec deux G, qui renvoie en arabe à la fejjara, c'est-à-dire le processus par lequel une matière passe de sa simple potentialité d'un stade interne, inerte, à un stade externe, dynamique, où il est en lien avec d'autres éléments. Par exemple, si on parle de l'eau, quand elle passe d'eau à eau qui arrose des jardins, la terre... Et donc, à rebours d'une conception un peu, disons, scientiste, froide, où les sols sont disséqués en données mesurables, en gros, dans la fogara, je pense que je le prononce mal, mais voilà, la géologie, elle est dynamique et mouvante. Donc, au-delà peut-être juste de l'anthropologie, parce qu'on a vu que tu n'étais pas anthropologue, même si tu en parles très bien, on sait que l'anthropologie, elle peut mettre en mouvement des théories critiques, même nous faire penser à des pistes stratégiques intéressantes. Est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités d'articuler des formes de savoir au bord des mondes, peut-être, depuis le comportement et les propriétés, les, disons, les potentialités de la matière elle-même?
C'est une très bonne question, mais c'est tout un sujet, ça. C'est tout un sujet que je ne saurais pas te répondre là. Par rapport à la matière, là, tu me prends de court. Hein.
Pardon.
Écoute, la seule chose que je peux te dire de manière beaucoup trop générale, c'est que je pense que ce qu'on apprend d'un certain nombre justement d'études ethnographiques, c'est que cette séparation entre matière ou esprit ou part métaphysique du réel et part physique du réel, que c'est un dualisme extrêmement problématique, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vais peut-être te répondre de manière un petit peu trop générale, mais je cherche pas effectivement à rendre l'anthropologie plus exacte en faisant ça. Ce qui m'intéresse, et je pense que c'est dit de manière assez claire dans le livre, c'est que c'est en fait un plaidoyer pour la philosophie, ce livre. Et que je pense que la philosophie peut plus rien faire sans s'intéresser justement à une pluralité de monde, en fait, et qu'elle doit avoir quelque chose, elle doit avoir un lien avec l'anthropologie, même si elle fait justement de la philosophie de terrain, c'est-à-dire qu'elle va ailleurs et qu'elle sort de cette espèce d'eurocentrisme hyper dominant et qui essouffle en fait hein, les forces de la pensée critique. Donc ça, c'est très clair pour moi, mais de l'autre côté, c'était aussi une manière de dire à l'anthropologie, mais si vous commencez à analyser des ontologies, vous commencez à faire de la philosophie en fait avec celles et ceux dont vous prétendez parler. Donc il faut arrêter de les objectiver et commencer à réfléchir avec. Ce qui signifie de rompre effectivement avec le partage nature-culture, mais probablement avec ce que j'essaie d'appeler le sécularisme, qui n'est pas que le naturalisme, qui est cette idée sur laquelle il n'y aurait que le visible, ou il n'y a que ce que je vois, ou tout ce qui a trait aux esprits et aux dieux serait une invention de l'imagination humaine. Bon, j'imagine que la plupart des gens qui vont nous écouter ont ce présupposé ou partagent ce présupposé. Bon. Donc en fait, la seule chose que je peux te répondre, c'est oui, dans la mesure où c'est une proposition spéculative qu'il faudrait explorer.
Et ta question, elle est intéressante, mais il faut la poser à Anastasia Martin, parce que dans son dernier livre, justement, elle essaye de penser l'animisme hors de simplement le bestiaire et l'herbier, quoi, le végétal et l'animal. Elle va essayer de penser un animisme élémental, genre du vent, de la matière, je ne sais plus exactement de quels éléments. Et c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, elle fait ce geste presque narratif de faire de l'anthropologie. On raconte une histoire, on est vraiment très très proche. Enfin, c'est presque les gens qui parlent directement dans le livre. En tout cas, il y a ce geste-là qui est en cours, en tout cas chez Anastasia Martin, qui est du tournant ontologique, mais qu'elle essaye de reconstruire et construire à travers son anarchisme onirique. Ouais. Et bah, du coup, ça tombe bien que je finisse sur le mot anarchisme onirique, parce qu'il y a dans ton livre, à toute fin, je crois que c'est le dernier chapitre peut-être, ou l'avant-dernier, tu finis par une expression. Tu parles, tu caractérises ton geste philosophique, donc pas anthropologique, mais philosophique, comme appartenant à un certain anarcho-spiritualisme. Alors, peut-être que tu peux essayer de nous caractériser ce que c'est que cet anarcho-spiritualisme. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à la fois anarchiste, ou penser de manière à partir d'une absence de principe, et en même temps spiritualiste? Qu'est-ce que c'est que cette dimension qui vient se greffer à l'anarchisme?
Alors, c'est vrai que le moment où en fait j'ai écrit ça, en fait c'est pas pour caractériser mon geste philosophique, c'est plutôt pour caractériser une des conséquences politiques de ce geste. Parce qu'en fait je me revendique tout autant du matérialisme historique dans ce texte que d'une certaine forme de pensée métaphysique, dans la mesure où je pense qu'elles peuvent coexister. Parce qu'elles se situe pas sur le même plan. Par exemple, je pense vraiment que une des raisons pour lesquelles c'est pas très intéressant de dire je vais étudier les religions, qu'en fait c'est un non-objet, la question elle est plutôt d'étudier des phénomènes sociopolitiques qui permettent en fait de montrer qu'il y a certains phénomènes religieux qui sont historiquement déterminés et qui sont liés à en fait des moments de bouleversement du capitalisme et avec souvent des parts très impériale ou coloniale. Par exemple, le texte parle beaucoup de l'islamisme ou de l'évangélisme, dans la mesure où il me semble que ces formes, en fait, ces formes de religion contemporaine sont justement des formes de religion contemporaine. Donc, ce sont des formes sécularisées parce qu'elles appartiennent à des États-nations, qu'elles prennent une nouvelle forme à partir du 19e siècle qui fait qu'on n'a pas affaire au même type, au même archaïsme qui resterait le même. Bref, ce qui est plus intéressant, c'est pas d'analyser des constantes, c'est de voir comment ça varie, comment ce qu'on appelle religion, ça se transforme au fur et à mesure du temps, qui est une intuition qu'on trouve chez Marx, mais dont il a jamais rien fait, qui explique en fait le titre du premier livre que j'avais fait sur la sécularisation. Parce qu'en fait, si on lit ce que Marx notamment dit dans la question juive, en fait, on voit que quand il parle du fait d'expliquer les phénomènes religieux par des limitations séculières, il dit, et non pas à l'inverse, c'est-à-dire d'expliquer ce qui se passe de manière profane ou dans la société par des causes théologiques. Quand il dit donc qu'on va expliquer la religion par des causes profanes, notamment par des limitations séculières, il parle de la sécularisation de l'État. C'est ça qui est très intéressant. Je mentionnais l'article d'Actuel Marx que j'avais fait il y a un certain temps, mais c'est ça que j'essayais de montrer. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, Marx dit, l'État est sécularisé dans la plupart des pays d'Occident, surtout aux États-Unis, selon lui, en fait, à l'époque. Donc, on est en 1843. Ce qui se passe, c'est que, par contre, il n'y a pas de sécularisation de la société, notamment de la société civile. Et ce qui se passe, c'est que la sécularisation de l'État conduit, en fait, à une intensification de la religion dans la sphère privée et dans le social. Et à mon avis, il voit quelque chose de très central, qui est le fait que, quand vous avez une sécularisation des institutions politiques, ça a un impact, ça a une influence sur la nature même de ce qu'on va appeler le religieux. Marx même dit, ce qu'on appelle le purement religieux, en fait, s'invente à ce moment-là, au XIXe siècle, puisque précisément, il y a une dépolitisation liée au fait que ça soit désinvesti par l'État, quoi. Donc ça ne veut pas dire, en gros, qu'il y a un déclin de la religion, ça veut au contraire dire qu'il y a une intensification liée au fait que ce qu'on appelle religion se transforme de l'intérieur. Bon. Alors il y a plusieurs exemples que je donne, et un des exemples à l'œuvre, ou qui est présent dans ce livre, et qui en explique une part politique, en fait, c'est ce qu'on appelle parfois l'islamisme. Bon. Alors l'islamisme, en fait, est quelque chose, bon, en gros, ce sont des partis qui se sont dits islamiques, qui ont été des partis de contestation à un certain moment donné de dictatures plus ou moins séculières ou laïques, depuis, disons, les années 80, pour faire vite. Enfin, il y avait des prémices avant, mais ça s'est surtout accéléré à ce moment-là. J'essaie simplement de dire que souvent, on va interpréter ce type de phénomène en disant ça a trait à la religion. Par exemple, là, récemment, quand il s'agissait des insurrections qu'ont porté, des manifestations et insurrections qu'ont porté les femmes en Iran, on avait une tendance à dire, bon, voilà, elles luttent contre l'islam. Non, elles luttent contre une loi, d'abord et avant tout. Donc ça, c'est le truc typique de l'orientalisme, c'est que dès qu'il s'agit des musulmans et de l'islam, on a affaire à des causes, justement, là, pour le coup, très idéalistes, comme si la religion dominait tout et expliquait le comportement des acteurs sociaux. Or, la plupart d'entre elles sont probablement musulmanes, au moins de culture, et donc luttent contre une loi. Et le problème, c'est que quand on a affaire à des États qui se disent musulmans ou islamiques, on a d'abord et avant tout affaire à des États. Et donc, si ce sont des États ou des États-nations, ça veut dire qu'on n'a pas affaire juste à l'islam, mais à une forme historique de ce qui est devenu l'islam au fur et à mesure de sa colonisation, en fait, on pourrait dire, c'est-à-dire d'intégration, alors sous des formes très variées, dans le cadre, en fait, d'un État-nation qui est aussi une soumission hein, des autorités religieuses à la toute-puissance de l'État. Et alors, en fait, anarcho-spiritualisme, ça renvoie au fait de dire que le fait de restaurer la part métaphysique du savoir et notamment des sciences humaines permet aussi, d'un point de vue politique, à mon sens, de contester la légitimité de ces formes de domination et de ces formes de violence religieuse de l'intérieur des traditions, justement. C'est-à-dire, au fond, de dire, mais même d'un point de vue, si vous voulez, spirituel, surtout d'un point de vue spirituel, le fait de soumettre une tradition à l'État, à la toute-puissance de l'État, est problématique. Puisque si on a affaire, et c'est le cas notamment dans ce qu'on appelle les monothéismes, à une conception du divin qui a une unicité tellement radicale, c'est pas la même chose que juste le dieu un, c'est une unicité telle que elle est censée ne pas avoir de représentant terrestre satisfaisant en tout cas, bah, là le problème de l'État et de l'absoluité revendiquée par l'État, bah, justement est problématique quoi. Et alors là vous avez une critique qui est interne qui consiste à dire mais non, c'est au nom de cette entre guillemets du spirituel que ces états sont remis en cause. Et ça c'est pas du tout la même chose que d'apporter une norme qui serait celle de par exemple effectivement de la laïcité ici par exemple qui est quelque chose de très complexe et de dire voilà c'est cette norme à l'aune de cette norme qu'on va critiquer ce qui se passe là-bas, mais plutôt d'avoir une critique interne. Et c'était aussi une manière à ce moment-là, donc c'est pour ça que ça qualifie pas l'ensemble de mon geste, mais c'était aussi une manière à ce moment-là de préciser autre chose qui me paraît être très important, mais il va falloir que je trouve une manière de le dire très simplement, c'est que une partie du livre et de toute ma démarche, en fait, vient du fait que dans un certain discours, qui est un discours, qui, encore une fois, qui fait partie de moi parce que j'ai passé énormément de temps en France, par beaucoup d'aspects, je suis occidental, bien sûr, et que j'ai fait l'expérience de l'athéisme via la philosophie, mais pas simplement. Donc, c'est pas quelque chose que je rejetterai complètement, mais il y a un certain discours que des amis à moi tiennent, que des gens qui sont très proches de moi tiennent, concernant le fait de dire justement « Ah, le monothéisme, c'est problématique, les religions, c'est problématique, puisque ça nous c'est liberticide, le statut des femmes est problématique dans à peu près toutes les traditions, etc. etc. » Et moi, j'ai toujours été... Elle m'a toujours questionné, j'ai jamais réussi, en fait, à prendre ce discours tel quel, parce que je trouvais qu'il était... il était trop rapide, trop court et un peu paresseux, quoi. Et d'une certaine manière, j'essaie de le compliquer. Et ce qui se passe dans ce livre, c'est que j'essaie de déployer une double critique qui est à la fois une critique de la modernité capitaliste, séculière, extractiviste, et une critique de ce qu'on pourrait appeler les traditionnalismes ou des formes de pensée et de pratiques réactionnaires qui semblent être l'opposé de ce qu'on appelle la modernité, quoi. Et alors, c'est cette double critique qui m'intéresse. Et parce que moi, je me sens et je me vis comme étant à égale distance, en un sens, à la fois des formes de laïcisme, voire d'athéisme, mais aussi de ce qu'on appelle les religions, et notamment et surtout les religions instituées. Donc moi, je me sens comme étant ni dans l'un ni dans l'autre, quoi. Et c'est cette double distance que j'essaie de comprendre, que j'essaie de théoriser et que j'essaie d'une certaine manière de vivre et de pratiquer ce que je fais, moi, pour ma part, en tout cas, à travers la philosophie et la pratique artistique par certains aspects. Et je pense que je ne suis pas le seul du tout. Et donc, ceci étant dit, je voulais simplement dire que quand on dit, voilà, les monothéismes, par exemple, sont intolérants, c'est un truc qu'on retrouve très souvent, qui explique probablement la mode de l'animisme, ou plutôt le fait qu'on se sent à l'aise avec l'animisme, mais pas du tout à l'aise avec des formes plus proches du monothéisme. Donc à tort, mais aussi à raison, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement absurde. Mais ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a des tensions internes à ces traditions. Par exemple, moi j'avais appelé ça impérialité dans mon premier livre, et je maintiens le terme, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un dieu absolument unique, alors dans le cadre biblique, c'est moins clair, mais dans le cadre coranique, c'est très clair, où il y a aucune représentation possible, aucune ressemblance possible avec cette divinité-là. Et de l'autre côté, il y a cette idée qui, à mon avis, est beaucoup plus romaine et impériale en ce sens, c'est-à-dire si, il y a un représentant possible de Dieu sur Terre, qui est en gros l'empereur ou le monarque, quoi. Monarque, voulant dire monarchie, ça vient de mono, un, quoi. Par exemple, je pense que ces deux, et c'est ce que je dis à l'endroit que tu cites, ces deux pôles du monothéisme sont en conflit. Ils coexistent bien sûr dans la tradition, mais ils coexistent pas de manière simple. Il y a une tension interne, il y a une contradiction interne qui est productive, mais qui fait que du coup, effectivement, il y a une part anarchique liée au fait que s'il y a que le gouvernement de Dieu, il n'y a pas de gouvernement des âmes possible. Voilà. Et donc ça m'intéresse de le creuser, et c'est effectivement, et j'arrêterai peut-être là-dessus, une manière de sortir disons, le vocabulaire de la gauche radicale, de cette espèce d'opposition un peu binaire entre soit l'anarchisme, soit le communisme, qui est plus ou moins lié à la question du rôle qu'on donne à l'État. C'est vrai que l'anarchisme a une petite tendance, à travers cette espèce de slogan ni Dieu ni maître, à considérer qu'il y a une continuité stricte entre les maîtres, dont l'État, et l'idée de Dieu. Ben ça, en fait, ça a l'air de rien, mais en fait, ça présuppose toute une hypothèse sur la naissance, les conditions de la naissance de l'État moderne, qui me paraissent être problématiques. Dans la mesure où, oui, bien sûr, on a attribué à l'État une forme une sorte de divinité, mais ça vient justement de ce que moi j'essaie d'appeler l'impérialité. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord, en fait, avec le fait de contester ça. En revanche, le problème, c'est que il y a beaucoup de, enfin, y a un potentiel qui consiste à dire, mais en fait, si on pense vraiment l'idée de Dieu, je parle vraiment de la pensée. Je dis pas de dire que ça existe. Encore une fois, pour revenir à la, enfin, moi, je vais pas dire ah, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas la question. Le problème, c'est de dire, on doit avoir accès à un certain type de savoir qui, à mon avis, est philosophique, qui consiste simplement à penser cette idée. Enfin, si vous pensez cette idée dans toute sa cohérence, parce que souvent les gens disent, bah, j'y crois pas, mais parce qu'ils n'y ont pas pensé, en fait. Si vous vraiment vous prenez au sérieux cette idée, alors justement, elle peut vouloir dire que s'il y a un Dieu, il n'y a pas de maître, justement. Voilà. Mais ça, effectivement, je ne sais pas si nos amis anarchistes voudront prendre cette hypothèse en compte.
Je sais pas si on peut continuer un petit peu. Où ça va? Ok. Ouais, ça m'a. Du coup, je me demande. Pour toi, en fait, une théocratie, ça n'existe pas. En fait, c'est toujours une pseudo-théocratie. C'est-à-dire ce qu'on appelle un régime théocratique, c'est pas un régime théocratique. C'est un État. Et puis, bon, il vient construire la religion comme appareil de pouvoir. Mais on n'est pas dans le rapport à cette réalité complexe, traditionnelle, difficile à aborder, qui serait métaphysique ou transcendante. Du coup, il y a ça dans ton propos.
Oui, tu veux que je réponde à ça d'abord ou...
Et bon, la deuxième question, c'est plus pour dire n'importe quoi, c'est ce qui est... La deuxième, bon, allez, vas-y, je l'envoie. Ce qui est très marrant et amusant, c'est que il y a un concept d'intermonde qui vient de la Grèce, qui vient des Lucréciens en particulier, des atomistes, ce qu'ils appellent intermundium ou en grec metakosmai. Et ce concept d'intermonde, c'est justement le concept dans lequel l'espace dans lequel logent les dieux. Sauf que pour Lucrèce, quand il dit ça dans le De Rerum Natura, en fait, c'est une sorte de blague. C'est-à-dire qu'en gros, il va dire dans les intermondes, les dieux vivent oisifs, ils ont aucun rapport avec nous, ils sont tout seuls, bien tranquilles, etc. Et à la fin, il dit, en fait, c'est le vide. Enfin, en fait, l'essence des dieux, c'est d'être le vide, c'est-à-dire le vide entre les mondes atomiques qui chutent dans ce vide infini. Et ce qui est. Enfin, moi, je l'ai lu, ton livre, comme un retournement de ce geste-là, de dire, il y a des intermondes, et en quelque sorte, les dieux vivent dans les intermondes, sauf que. C'est pas le vide, c'est quelque chose, et ça nous sert à quelque chose d'insister à aller chercher ces dieux, à les sortir de leur oisiveté lucrétienne. Voilà, bah bref, donc il y a deux remarques comme ça. Je sais pas ce que. Fais-en
Bah,
ce que tu tombes.
très rapidement, je peux te dire quoi? Je peux te dire. Oui, pour moi, c'est du réel, ça, en fait. Voilà. Même si c'est pas forcément quelque chose qui existe, etc., c'est du réel. Et je trouve ça important de restaurer les droits de cette pensée métaphysique, quoi. Voilà. Aujourd'hui, dans des conditions actuelles, dans des conditions nouvelles, mais tout de même. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire, ça me le rappelle. C'est que. Moi, enfin, j'ai fait partie de cette mouvance décoloniale. J'ai été en contact avec un certain nombre d'auteurs, autrices, interlocuteurs, etc. Bon. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est dommageable, qui est le fait qu'on passe notre temps, ou souvent, un peu trop en tout cas, à parler de notre propre exclusion et de la question du racisme, bon. Qui est une question importante. Moi, j'ai essayé de la prendre en compte. Je pense que c'est, par certains aspects, un point de départ et un point aveugle qui est absolument nécessaire de prendre en compte politiquement. En revanche, je pense qu'on perd notre temps et potentiellement notre énergie à ne pas aller plus loin. Et ce que j'ai toujours trouvé étrange, c'est qu'on avait de l'espace depuis un certain temps, pas si longtemps, pour pouvoir parler justement de ces formes d'exclusion, du racisme structurel, etc. Mais très peu pour parler des traditions en fait qui sont les nôtres, qu'on porte, et de ce qu'on peut en faire aujourd'hui, quoi. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut changer le cadre de pensée dans lequel on se trouve. Je vais prendre un exemple, c'est simplement que par exemple, nous, quand on fait des études de philo, comme moi j'ai fait des études de philo par exemple, bon, alors quelque chose que j'aurais jamais voulu faire et que du coup je n'ai pas fait, c'était de devenir par exemple spécialiste de philosophie dite islamique ou arabe, les deux termes étant problématiques pour différentes raisons. Parce que en fait, au fond, on va en fait. Subrepticement donner une grande majesté à cette philosophie, mais de manière purement philologique. Donc en gros, les textes anciens du passé, où il faut, qui sont très intimidants parce qu'il faudrait connaître l'arabe classique sur le bout des doigts pour pouvoir les lire et être légitime d'une quelconque manière. Mais en fait, en faisant ça, en les magnifiant, on les étouffe aussi, puisqu'ils ne parlent pas du tout aux contemporains, et que ce qui devrait se passer, c'est que, et je parle de ces textes parce qu'en plus c'est ceux qui ils sont relativement connus, mais il y en a plein d'autres, d'autres traditions non occidentales, avec lesquels on devrait penser et dont on devrait se saisir pour penser différemment. Mais sauf que du coup, c'est un processus à double. Enfin, c'est un double processus dans la mesure où pourquoi est-ce que c'est pas possible de penser avec ces textes ? Aujourd'hui, est-ce que c'est souvent des textes qui ont l'air très abstraits, en fait très métaphysiques, puisqu'ils présupposent une toute autre conception du réel que ce qui est la nôtre. Conception du réel voulant dire là où le réel commence et là où souvent le réel s'arrête. Et même parmi nos amis animistes, etc., qui font parfois des choses très intéressantes, souvent cette clôture du réel, on la trouve aussi agissante. Donc en gros, moi j'essaie de réouvrir un espace métaphysique pour pouvoir décoloniser le savoir, mais de manière concrète, c'est-à-dire de penser avec d'autres sources, de les réactiver aujourd'hui, de les réactiver librement, de manière critique et créative. Et c'est ça aussi, puiser dans les fragments de la tradition qui nous reste, de nos traditions qui nous restent, pour en faire autre chose, quoi. Et du coup, ça m'amène à ton premier point, qui sera mon dernier point. J'ai parlé d'une contradiction interne par rapport à cette question du monothéisme, ce qu'on appelle comme ça, qui encore une fois devrait être complètement repensé. Mais j'aurais presque tendance à dire, c'est pas forcément dans le livre, mais que pour moi, les institutions religieuses en général sont problématiques, et elles le sont d'autant plus dans un monde aujourd'hui où il n'y a aucune institution religieuse majeure qui n'a pas composé avec le capitalisme d'une manière ou d'une autre. Simplement, dire ça, ce n'est pas laisser à ces institutions le monopole justement du spirituel, ou moi j'aurais tendance à dire le monopole du métaphysique. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de restaurer, de réactiver en tout cas certaines parts métaphysiques, justement pour contester ces institutions de manière nouvelle et à mon avis plus créative que de faire quoi ? De défendre la modernité, la liberté, l'égalité, etc. face à ces institutions. Un, elles font partie du même système. Deux, on voit bien que ces principes sont en fait en train de s'essouffler, notamment mais pas seulement à la faveur de la dite crise écologique, quoi. Et dernier mot, on y est déjà, hein, c'est-à-dire que le simple fait qu'on parle de Gaïa pour dire la Terre, qui est donc une déesse grecque, en fait d'une certaine manière, on y est déjà, sauf que les écologistes et la pensée écologique n'ose pas assumer le fait qu'on est déjà en train de baigner, peut-être pas dans une spiritualité à l'œuvre, mais en tout cas dans un vocabulaire où ces questions-là sont en fait déjà présentes. Donc soit on va vers une forme où seules des formes entre guillemets néo-païennes ou néo-animistes ont le droit de citer parce que Dieu n'est pas là, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose de neutre religieusement, c'est-à-dire que, dire qu'on a choisi certaines formes spirituelles contre les autres, ce qui est une exclusion. Soit tout le monde a le droit de citer, et en quel cas, il y a un vrai pluralisme à l'œuvre. Et je dirais qu'un des paradoxes un peu dialectiques du livre consiste à dire, ok, très bien, on peut avoir, beaucoup d'anthropologues en tout cas pensent qu'il y a un pluralisme, il y a une doctrine plurielle, alors on appelle ça parfois le pluralisme ontologique, souvent ça vient, encore une fois, de Deleuze, Whitehead. Je me rappelle cette phrase d'un anthropologue qui dit « Les Indiens sont deleuziens », bon, c'est quand même une projection eurocentrique. Mais le problème, c'est que si dans le pluralisme, il n'y a pas les monothéistes, le monothéisme, c'est-à-dire il n'y a pas l'un, en fait, c'est pas vraiment un pluralisme. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut un pluralisme qui intègre cette pensée de l'unicité, sinon c'est pas un pluralisme. Donc voilà. Voilà ce que je dirais, en fait, en termes de questions, en fait, que je voulais poser par ce livre, que j'ai vraiment fait aussi pour ouvrir le débat, parce que j'étais assez estomaqué par le fait qu'elle n'était absolument pas présente. Voilà.